L'émotion musicale.
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 Et bonsoir à tous et bonsoir à toutes auditeurs et auditrices et bienvenue dans cette deuxième édition spéciale de l'émulsion musicale, l'émission qui vous fait découvrir de la bonne et de l'excellente musique. Et de nouveau, le titre est complètement adapté puisqu'on passe à la suite de la semaine dernière. Et si jamais vous l'avez loupé, auditeur ou auditrice, on fait une sorte de petit countdown. On revient en fait sur l'année 2017 qui a été une année absolument incroyable au niveau musical en faisant les meilleurs albums de 2017. Alors je vais pas vous refaire tout le blabla que je vous ai fait la semaine dernière, si jamais vous cherchez l'émission d'avant pour découvrir 10 albums absolument géniaux, elle est retrouvable sur le site de cette radio bien sûr, mais là du coup cette fois on va faire vraiment, disons la semaine dernière c'était un petit peu une mise en bouche, là on va faire vraiment pour moi, et moi seul bien évidemment, les 10 meilleurs albums de l'année. Comme je l'ai dit, ça a été une année absolument incroyable. J'avais 43 participants au départ et après de longs débats avec moi-même tout seul face à mon bureau et à me prendre la tête, j'ai réussi à faire un top 20 et là, c'est les 10 meilleurs. Alors on va avoir des choses absolument incroyables, hein, c'est le but du truc, des anciens qui sont revenus comme des petits nouveaux qui font leur entrée sur scène et surtout de tous les styles différents, mais je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps parce qu'on a déjà énormément parlé pendant une heure et demie la dernière fois et que ça risque d'être encore plus long cette fois-ci. Mais restez avec moi et vous allez découvrir, peut-être redécouvrir en tout cas ce qui a fait pour moi l'année 2017 en tant que musique et qui restera l'une des grandes années de cette décennie à mon avis. Donc, perdons pas de temps, ça fait trois fois que je le dis, donc il serait peut-être temps d'y aller, tant. Ne perdons rien du tout, que dalle, et passons directement au numéro 10 avant que je me perde complètement dans cette intro.
Number 10.
J'ai commencé l'émission précédente par un artiste de rap, et je vais commencer celle-ci exactement de la même manière parce que j'ai peur de rien. Mais cette fois, on va aller de l'autre côté de l'Atlantique pour voir ce que font ces satanés ricains. Il est temps de vous faire entendre personnellement ma découverte rap préférée de l'année. C'est John Wayne avec l'album Rap Album 2.
Yo man, are you John Wayne, bro? Are you John Wayne?
Yeah.
Oh, shit, man. What's up? Hey, look, I don't know who you are, bro, but I'm with this girl. She says she knows who you are. I think she's a big fan.
Hi.
But she says you rap, and I'm not really seeing it, though.
Yeah.
My past highlighted by these city lights. I take the alleyways, grabbing on this battered mic. The dark shattered light, my peers after mine. I'm just hoping that they also love the afterlife. Either that or whatever is creeping afterlife. See, I'm a man tonight. I see these boys looking.
Alors soyons clairs, ce n'est pas le cowboy et acteur John Wayne qui fait des albums aujourd'hui, hein. Déjà parce qu'il est mort, ce qui est une raison suffisante, mais aussi parce que s'il avait connu le rap, je suis pas sûr qu'il aurait apprécié. Tout est-il que pourtant, le surnom de l'artiste dont nous parlons aujourd'hui a un rapport intéressant avec l'acteur John Wayne. Une petite anecdote que je m'en vais gaiement vous conter. John Wayne, l'acteur, a choisi son pseudonyme John Wayne en rapport avec un vieux général de l'armée américaine qui lui s'appelait John Wayne. Or, ce vrai John Wayne est un ancêtre de John Wayne le rappeur, alors qu'il n'a aucun rapport avec John Wayne l'acteur. Donc au final, qui c'est qu'à copier ? C'est clair ? Pas du tout ? Bon, c'est bien, continuons. John Wayne est un artiste merveilleux. Si on peut lui reconnaître la qualité de ses instrus qui mélangent harpe et beat jazzy ainsi que son flow calme et tranquille, c'est surtout ses textes qui le distinguent du reste. Vous savez que pour moi, auditeuriste, un artiste rap se distinguera principalement par sa plume. C'est personnellement ce qui me touche le plus dans cette forme d'art. Et John Wayne m'a accroché directement à la première écoute. Car ce mec est un poète. Et c'est pas une formulation ou une licence poétique, justement, hein, c'est vraiment un poète. D'ailleurs, l'histoire de comment il s'est mis à la poésie est absolument adorable. Étant un tout petit peu en surpoids, d'ailleurs ça a l'air d'être un trend chez moi, j'aime bien les rappeurs gros, va savoir, donc étant un tout petit peu en surpoids et pas forcément typiquement ce qu'on appelle un beau gosse au lycée, et notamment dans les lycées américains où les jocks, hein, ce qu'on appelle les jocks, donc les beaux gosses absolus, ont la dominance totale de ce monde qui est le lycée, il est tombé fou amoureux à cette époque d'une très 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 belle fille qui était dans un club de poésie, qu'il a lui-même du coup rejoint pour l'impressionner. Alors, la suite de l'histoire ne dit pas s'ils se sont mis ensemble à un moment ou pas, mais c'est ainsi que John Wayne se mit à lire Voltaire, Whiteman ou autres grandes plumes, et se mit surtout à écrire. L'album Rap Album 2, qui a sûrement le nom le plus générique de tous les temps, est une merveille d'écriture. Il arrive à une époque bizarre de la carrière de John Wayne, puisqu'après être passé par la case producteur, et donc d'avoir fait le chemin classique, grosse drogue, défonce absolue, et pas passé loin de l'overdose, John Wayne est revenu avec cet album qui a pour thème principal le fait qu'il se rend compte de ce qu'il y a de plus important pour lui. Et ce qu'il y a de plus important pour lui, ce sont les mots. Ses mots. Ceux qu'il écrit, ceux qu'il tape et ceux qu'il rappe. C'est tout ce qui lui importe, et ça donne des textes d'une puissance et d'une force très poignantes. Comme après une expérience de presque mort, en fait, simplement, on a l'impression que le discours de quelqu'un est beaucoup plus focalisé sur ce qui lui semble important. Et ce qui semble important à John Wayne, c'est tous ses mots. Le morceau que je vais vous faire écouter, auditoris, se nomme « These Words Are Everything » et est la 12e et dernière track de l'opus. Et il est absolument fantastique. C'est un de mes morceaux préférés de l'année. Ce morceau décrit avec exactitude la lassitude de la vie, les erreurs passées d'un être humain, la réflexion qu'on peut avoir sur son parcours de vie quand on a raté de grandes choses, et le fait que bah, les mots, comme je le disais, sont tout pour lui. D'ailleurs, c'est avec cette phrase que le morceau se termine. Je sais que quand je vais mourir, ces mots seront ma seule chose, mon seul tout, tout ce qui restera de moi. J'aurais pu parler plus en profondeur des instrus utilisés ou de la clarté des enregistrements de ces morceaux, auditoris, mais je me suis dit que c'était plus intéressant de décrire un petit peu le personnage parce que cela fait partie intégrante de pourquoi moi j'ai autant adoré son œuvre et pourquoi j'ai décidé de le classer à la 10e place de ce classement. Et pour enfin illustrer tous mes propos, je vous propose d'écouter le morceau « These Words Are Everything » du Rap Album 2.
It was raining, drops were cutting through the mist. I'm in the kitchen like a good kid, hot chocolate, drawing booklets for profit. Granddad had some quarters for my project. Ever since I had an artist audience, I swore to God that I would body shit. Life is too short for modesty. I was telling myself, up on that balcony, my legs were through the bars, steady swinging till the splinters came. I'm aiming for the top. Whatever I'm dropping, mom, even the mock-ups are hot. This shit is better than friendship. They never understand when I begin shit. I walk the lower field until the bell hits the wind. It's clicking like these groups of little kids when they get it in. But I don't need to play pretend when I play to win. Word to Benjamins, word to everything. These words are everything, or maybe words are just my only thing. Alright, that was it. Dilla died and I was living off his gift. I just heard donuts at the borders on the corner in La Habra. I was over all these people trying to tell me my aspirations were goners. I wrote my poems so I could stay in my zone, thinking, why go to church if I feel God in my home? Maybe I write because I'm feeling out of my bones, and when I exercise this demon I'm not thinking of those. It's 2010, I got some souls and I'm finally making friends. I'm on the cusp of something big and I can feel it. Everything has been building up to this moment, I can steal it. I'm just an aphid in the crib speaking major. Lip service paid for. Showed the whole city what this Winniac is great for. Word to the Kev machine. Word to everything. These words are everything, or maybe words are just my only thing. We'll be right back.
2016, I spent the last 2 years fucking up big dreams. You never know what you want until you get it. The future ain't set, sometimes it's the little things winning over these checks. I had the chance to sell out, and I told them about how words are everything, much bigger than gold clouds. If I'm a shell of a man, my words are empty, ringing through the halls of my bones for near a century. Don't lecture me, I see that selling soul get better things. And maybe it's just fear that's keeping me from better scenes. But I'm here, one piece, an uncle and a beast. When they hit play, they know that I'm a feast, so rest in peace. Married to the game, but it's complicated. I know just how it works. If I was smart, I'd get hella cake. Like if I threw a hook upon this beat, it'd get hella plays. If I just said yes to all these fools, I'd get hella paid. If only I could keep my mouth shut, no enemies. But I don't see the point in knowing truth and not set it free. I can't both express myself, then play the game. If you just can't handle what I say, then don't say my name. Keep it out your mouth like a foot. Rappers babble like a young adult book. Look, my trifocal looks could kill some dumb occult crooks. Burn a skull cook. If I come out retirement, I got them all shook. Let me shake them then. Paperless, stirring up emotions with my paper pen. If you getting this for free, what you pay for then? Word to friends and them. Word to everything. But when I die, I know my words will be my only thing.
These Words Are Everything de John Wayne de l'album Rap Album 2. Comme je vous l'ai dit, auditeur, auditrice, pour moi, c'est ma grande découverte rap de 2017. En fait, simplement, j'adore son flow, j'adore sa voix. Et surtout, si vous avez l'occasion et si vous parlez un petit peu anglais, je vous conseille énormément de se pencher sur ses textes. C'est pas des textes nihilistes, mais c'est des textes empreint d'une grande expérience de vie, en fait, simplement, de passages à vide et de passages sur lesquels il s'est, à mon avis, beaucoup retourné, et c'est absolument magnifique. Rajoutez à ça quelques notes de harpe, comme on vient d'entendre, et je trouve ça absolument parfait. Allez, on n'est qu'au début du classement, et je vous propose tout de suite de passer au numéro 9.
Number 9.
Faisons désormais un voyage dans le temps et revenons en arrière, auditoris. Durant cette merveilleuse période qu'étaient les années 80, le moment où l'être humain, celui qui s'intéresse à la musique, découvrait les synthétiseurs et en foutait soudain partout à tout bout de champ sans retenue. Certains considèrent cela comme une partie sombre de l'histoire de la musique, et c'est un débat que je ne souhaite pas avoir ici, mais aujourd'hui, en 2017, il existe des artistes qui utilisent maintenant cette connaissance des synthés pour nous faire voyager dans les étoiles, notamment avec le numéro 9, Rose Elinor Dougal et l'album Stellular. C'est étrange de voir à quel point le temps est cyclique et à quel point la nostalgie d'une époque fantasmée peut avoir comme influence génération après génération. J'avais un débat il y a peu avec une amie à savoir pourquoi la fin de notre décennie a soudain l'air d'avoir une fascination pour les années 80, que ce soit dans l'esthétique, dans l'idée romancée de cette période d'insouciance et de kitsch, et pourquoi cette nostalgie bercée d'illusions adorables semblait soudain si prenante. Alors, vous allez me dire, auditoriste, c'est passionnant, Camille, mais quel rapport avec quoi que ce soit là tout de suite ? Justement, j'y viens. Je n'ai pas la réponse à cette troublante question qu'est le pourquoi, mais on peut observer le comment, c'est-à-dire quel effet cela a, notamment dans ce monde merveilleux et en constante évolution qu'est la musique. On a vu récemment un retour à la vision colorée qu'on peut avoir dans l'imaginaire collectif des années 80. Alors, bien que personnellement j'aime pas ça parce que le synth-pop c'est vraiment pas mon truc et ça donne naissance à des très mauvais groupes comme La Femme, oui, La Femme c'est un mauvais groupe, Fight Me, ça peut des fois donner naissance à des bonnes choses, comme l'album Stellular de cette chère Rose Elinor Dougal. Un tiers du trio que composait le groupe The Pipette, un groupe de trois filles un petit peu oublié collectivement des années 2000, et puis d'ailleurs c'était pas extraordinaire ce qu'elles faisaient, mais qui mélangeait pop et surf rock des années 60, Rose Elinor Dougal est désormais en carrière solo et a sorti un des albums les plus color pop de l'année, et pour dire la vérité, un pastiche de l'époque synthétiseur pop. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que nous n'avons pas sous les yeux et sous l'oreille une bête carbone copie d'un disque qui aurait dû sortir il y a 35 ans, mais bien une forme de réactualisation. La pop, de nos jours, est dans un état un petit peu perdu, hein, à pas trop savoir quoi en faire de son style musical, à mélanger les genres pour faire une musique alors populaire qui plaît, et à se réinventer. Enfin, se réinventer, piquer dans les autres styles qui marchent et faire un globi-boulga consensuel surtout, hein. C'est pour ça qu'on a vu la pop ces derniers temps au lit avec d'étranges partenaires, tels que l'EDM ou encore le rap et l'autotune. Dans tout ce fourre-tout de n'importe quoi, il est rare de trouver de la pop pure, enfin vraiment encore de la bonne pop pure, et elle a un petit peu mauvaise réputation au niveau des hipsters comme moi qui la regardent d'un air un petit peu hautain et méprisant. C'était, sans compter tout ça, l'album Stellular. Parce que dans cet opus, on va notamment retrouver la base fondamentale de la pop, enfin les bases plutôt, telles qu'un rythme très basique mais catchy, une voix un petit peu bubblegum ou encore des riffs de guitare pas forcément incroyables mais suffisants. Ça déjà, c'est cool. Mais ce qui l'a élevé à cette place cette année, cette 9ème place du classement, c'est le voyage général que propose cette chère Rose. Voyage dans les étoiles et dans le cosmos. Le mélange de reminiscence 80 et de psyché synthé est un cocktail parfait d'ambiance deep et stellaire. Le titre de l'album d'ailleurs ne ment pas, Stellular. C'est bien ça qu'elle nous propose. Une suite de morceaux spatiaux où sa voix, au demeurant très agréable et aux accents lointains sachant tenir la note, se confond dans l'impression de voyage coloré où on passe de planète en étoile. Et c'est ça que j'entendais par pastiche actualisé. Même si la nostalgie est forte des années ridicules, il y a un son très actuel qui fait évoluer la pop vers une nouvelle direction. Et dans un monde où ce style stagne lamentablement, c'est à la fois surprenant et louable d'aller dans cette direction, entremêlant passé et présent dans une réussite complète. C'est sûrement ma plus grosse surprise de l'année et c'est top pop. D'ailleurs, pour vous en convaincre, écoutons donc, pour comprendre de quoi je cause, le titre éponyme de l'album, donc, qui se nomme Stellular.
See you.
Et voilà, le morceau Stellular de l'album du même nom de Rose Elinor Dougal. Je ne m'attendais absolument pas à aimer ce genre de musique, auditeur, auditrice, pour le coup, je l'ai téléchargé un petit peu au pif, et ça m'a complètement pris, en fait, simplement par l'ambiance stellaire. Bah oui, stellaire, ça marche bien avec le titre, hein, je veux dire, le titre est absolument bien trouvé pour l'album, Stellular, stellaire, avec cette ambiance stellaire dans laquelle Rose nous emmène, avec sa voix lointaine et ses instrus synthés à fond. Bref, ça a été vraiment une grosse surprise, surtout pour moi, on va dire, d'avoir un album aussi bon avec un style aussi particulier. Et c'est vraiment très agréable. Allez, on passe au numéro 8.
Number 8.
2017 aura vu le grand retour d'un de mes groupes fétiches que j'adulerai toute ma vie pour ce qu'ils ont osé produire et sortir dans le début du millénaire. Et bien qu'il ait divisé les fans, ou devrais-je plutôt dire les lapins, et qu'il m'ait déçu au premier abord, j'ai finalement compris le but et la tristesse de l'album en question dont je vais parler. Ne perdons donc pas de temps, parce que j'ai beaucoup beaucoup de choses à dire dessus. En numéro 8, c'est l'album Stup Virus de Stupeflip.
Papa reste in peace. J'ai vu trop de trucs atroces, la tête coincée dans la matrice. Dans le trou, pas d'actrice. Mon âme est pleine de cicatrices. Tes paupières se plissent.
Alors là, il y a deux choix, auditoris. Soit vous n'avez absolument aucune idée de quoi je parle quand je dis déception et division des fans, soit vous êtes vous-même un fan du Stup et vous vous demandez bien, dans une rage déconcertée, comment j'ai pu placer l'album Stup Virus en 8ème place de l'année. Alors, calmez-vous, lâchez cette baramine et laissez-moi m'expliquer. Tout va bien se passer, je vous le promets. Déjà, Stupeflip, pour les non-initiés, à mon sens, les plus belles plumes sans conteste aucun du rap français, voire même d'une décennie, dans la droite lignée des grands paroliers français, instru incroyable, profondément révolutionnaire et univers étendu hallucinant. On est tous sur la même page, c'est bon, ok ? D'accord. Quid de l'album Stup Virus alors ? Il faut bien savoir avant toute chose que le dernier album du Stup, et à mon avis le meilleur d'ailleurs, l'Hypnoflip Invasion, que vous devriez écouter et réécouter, est sorti en 2011. Et à part quelques EP datés de 2013, le Stup, en la personne surtout de Julien Barthélémy, sous le sobriquet de King Ju, n'avait plus rien sorti depuis. Ayant une fanbase solide et convertie à la Stup Religion, voilà un moment qu'ils demandaient tous collectivement et d'une même voix un nouvel album, un nouvel opus à brandir fièrement comme une arme lors de la Révolution. Arrive octobre 2016, et là, surprise, une annonce est faite. Le prochain album sera financé par crowdfunding. King Ju demande 4000 euros à ses lapins pour enregistrer, produire, écrire et distribuer le quatrième album de Stupeflip. Alors, hystérie collective et ferveur populaire, le financement participatif est rempli en même pas deux jours, votre serviteur ici présent y a d'ailleurs participé à hauteur de 50 balles pour avoir le vinyle avec une pochette différente et unique, et oui, je suis un collectionneur bobo, qu'est-ce qu'il y a et alors ? Mais ça ne s'arrête pas là, auditoris. Le crowdfunding est un tel succès que sur les 4000 euros, King Ju en reçoit en réalité 400 000, prouvant l'envie et la demande du peuple pour un nouvel album. Soyons très clairs, hein, aucun album au monde, aucun n'est produit pour 400 000 euros. Le plus haut chiffre peut s'élever à peu près 80 000, et là on parle de groupes comme Metallica par exemple. Donc déjà c'est hallucinant. Arrive mars 2017 et sort l'album. Et là, c'est la déception. Mais la déception générale, hein. Les textes ne sont plus aussi aiguisés, les instrus manquent de pêche et d'inventivité, et la légende du Stup semble battre de l'aile. Et c'est la rage qui suit l'engouement qui s'installe. Les fans râlent, sont déçus, ne comprennent pas et sont tristes. C'est l'effondrement. Et j'en ai personnellement clairement fait partie. Tout ceci est bien triste, me direz-vous, mais c'est là qu'arrive le twist final de ce conte tragique. L'album Stup Virus n'est pas un mauvais album. Après des mois de réécoute et étant passé par toutes les phases de la dépression, notamment le déni, j'en suis maintenant persuadé. Ce n'est pas un mauvais album, c'est un chant du cygne. Une manière qu'a King Ju de dire à ses fans « je n'y arrive plus » et de l'avouer sur tout un opus. Et ça, eh ben c'est beau, putain. Pour plusieurs raisons, Stupeflip nous confesse que nous touchons à la fin de l'ère du Stup, qu'après des années à batailler à travers leurs textes contre cette société injuste et inhumaine, il y a désormais une forme de résignation. Pas un abandon, mais une lassitude de voir que rien ne change. L'exemple le plus parlant est que Stupeflip a toujours mis un point d'honneur à bâtir une histoire autour d'eux, une légende, un lore. En nous parlant des régions nord et sud et de leur guerre, du Stup monastère et de ses 60 prières et plein d'autres trucs complètement farfelus. Sur Stupvirus, après 20 ans de construction, c'est l'inverse qui se produit. Ils démantèlent leur légende pour parler de la réalité, de où a commencé Stupéflip, non pas dans un pays imaginaire, mais bien sur un vieux canapé crado enregistré sur cassette audio. Je ne saurais expliquer personnellement d'où vient cette fatigue, peut-être trop de pression de recevoir 100 fois plus d'argent que prévu, une lassitude aussi de l'artiste en question, une période de page blanche, mais finalement c'est secondaire. Je place Stupvirus en 8ème place parce que c'est un album touchant pour un fan comme moi. C'est touchant et beau de voir un de ses héros plier devant ce qu'il a combattu toute sa vie et de comprendre que quelque chose avec quoi vous avez grandi, vous vous êtes révolté et qui vous a inspiré, vous avoue qu'en réalité, c'est difficile. C'est extrêmement fort de voir tomber ses idoles. Et avec Stupvirus, c'est pas une belle histoire qui finit bien, c'est une histoire triste et poignante. Je le répète et je le répéterai autant de fois qu'il le faut, Stupvirus n'est pas un mauvais album. C'est un au revoir, beau, sincère, bien écrit et direct. Et pour cela, je tire mon chapeau, alors qu'eux tirent leur révérence. Je ne pense pas qu'on l'entendra de nouveau du Stupéflip, et peut-être direz-vous que mon fanboyisme prend le pas sur mon objectivité musicale, et vous aurez complètement raison, mais je m'en balance. Et je mets Stupvirus en 8ème, parce que je remercie le Stup pour ce qu'ils nous ont, à moi et aux autres, à nous autres lapins, apporté durant toutes ces années. Comment ils nous ont accompagnés et régalés. Et que je refuse que tout cela se termine sur une note négative, mais plutôt sur un adieu émotif. Merci King Ju, merci Cadillac, merci MC Salo, merci à vous, merci à Popip d'avoir créé le Stup. Et comme choix de musique pour tenter de vous faire ressentir tout ça, je n'ai pas choisi ma préférée de l'album, comme je fais habituellement, mais la plus touchante à mon sens, le morceau qui s'appelle 1993 de l'album Stupvirus. Voilà, auditeurs, auditrices, le morceau 1993 de Stupéflip de l'album Stupvirus. Peut-être que ça vous parle pas forcément, auditeurs et auditrices, parce que c'est vrai que là, c'est vraiment mon fanboyisme du Stup qui a parlé, mais Après une grande déception comme on peut en avoir dans la musique pour quelque chose d'aussi important que peut être la musique, dans quoi ça peut vous accompagner, dans les émotions que ça peut vous faire ressentir, de passer en fait d'une déception à une compréhension de l'œuvre et d'être profondément touché au plus profond de soi et de voir ses héros tomber, mais tomber pas dans la disgrâce, quoi, tomber un genou en terre, et ben c'est très 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 beau. Alors moi, je vous conseille de l'écouter, bien évidemment. Je vous conseille d'écouter toute la discographie de Stupéflip parce que c'est grandiose. Mais Stupvirus a vraiment une place dans ce classement. Beaucoup de fans ne seront pas d'accord avec moi, mais c'est mon émission et quelque part, je fais ce que je veux. Voilà. Bon, allez, on va se tirer un petit peu de tout ça et puis on va écouter le numéro 7 qui est radicalement différent. Numéro 7.
Number 7.
En numéro 7, c'est une preuve qu'on peut bien avoir 50 balais, une barbe de Père Noël et faire de la sublime musique. Nous sommes en plein, en ce moment, à mon avis, auditeur et auditrice, dans la période de renaissance du psychédélique. Et je ne pourrais rêver mieux comme période pour être en vie. Et une des grandes preuves de tout cela qui a décidé de débarquer cette année, ce sont les Moon Duo avec les albums Occult Architecture, volumes 1 et 2. Alors, malgré le fait que Yoko Ono ait pourri l'image des Asiatiques quand ils décident de se mêler à du rock occidental pour tous les temps, il existe bien des contre-exemples. Comme ce qui nous intéresse d'ailleurs maintenant, Moon Duo. Un duo, donc, assez logiquement, composé de Ripley Johnson, guitariste, et de Sanae Yamada au synthétiseur. Moon Duo, c'est du psyché. Il n'y a littéralement aucun autre terme parce que c'est du rock psyché pur et dur. Limite, on pourrait mettre une photo de ce duo si particulier comme illustration dans le Larousse 2017, que ça serait parfait. Long riff de guitare complètement hypnotisant et distordu, notes de clavier qui semblent venir d'une autre galaxie, et voix lointaine semblant vous parler comme dans une transe méditative, tout y est. Moon Duo, c'est doux comme un oreiller de plumes et entraînant comme un voyage astral. Imaginez-vous, auditeuris, arriver au boulot tranquillement, téléchargeant des albums un petit peu au pif, tomber là-dessus et partir ensuite dans un autre univers pendant que vos collègues se demandent si vous êtes catatoniquement mort ou si vous avez juste pris trop de payolt au petit déjeuner. Existant depuis 2011, le double album qu'ont sorti Moon Duo en 2017, respectivement nommé Occult Architecture 1 et Occult Architecture 2, est le plus doux à ce jour, comme si les deux compositeurs avaient décidé de faire fondre leur propre composition. Doux, oui, mais enivrant. On en vient à se perdre dans leur univers, aux mille formes et aux couleurs comme un trip en acide bien salé. Et souvent, auditoris, vous avez dû le remarquer, j'associe la couleur à la musique, parce que je suis intimement persuadé que c'est complètement lié dans nos imaginaires à nous. Mais avec Moon Duo, c'est la représentation la plus claire et la moins métaphorique que j'imagine. C'est ce que leur musique, en fait, c'est ce qu'elle est, c'est ce qu'est leur musique. Une suite d'explosions de couleurs, comme un feu d'artifice tranquille, mais justement sans grosse explosion, sans pétarade, où se mélangent des palettes dans des formes occultes et obscures, créant des illusions semblables au voyage astral. Si John Wayne a des tons violets sombres, Rose-Elinor Dougal est un bleu satillant et Stupéflip un rouge ocre ambré, Moon Duo, c'est tout ça, plus des couleurs encore inconnues par l'homme et perceptibles seulement dans une expérience hors du corps. Vous me direz, auditoris, que je suis moyen clair sur toutes mes histoires de hippies alternatifs là, mais je ne sais vraiment pas comment décrire ces deux opus autrement. Il y a une forme d'enchantement euphorique qui s'échappe de vos enceintes quand vous lancez l'un ou l'autre album. Alors je vous conseillerais éventuellement plutôt l'Occult Architecture 2 en premier si vous voulez vous lancer à la conquête de l'espace avec Moon Duo, plus accessible et plus planant, même si moi personnellement je préfère le premier. Je vais pas m'étaler plus loin sur ces textes parce que, comme je vous l'ai dit, Moon Duo est plus quelque chose qui se ressent que ce qu'il ne s'écrit. Et surtout, la plupart de leurs morceaux durent au moins 7 à 8 minutes. Alors, pour illustrer mes propos et aussi pour garder ma santé mentale et une durée d'émission à peu près convenable, je vais plutôt vous faire écouter l'un des rares morceaux qui fait moins de 5 minutes. Mais sachez que si vous vous plongez dans ces albums, vous êtes parti pour un sacré road trip. Écoutons donc ensemble le morceau Creepin, tiré de l'album Occult Architecture, voilà, volume 1. Bon voyage. Et voilà, Moon Duo avec le morceau Creepin' tiré de Occult Architecture, c'est pas facile à dire, volume 1, sachant qu'il y a le volume 2 aussi. Si jamais un soir vous avez envie de vous faire un gros voyage dans le cosmos, auditeur, auditrice, je peux pas recommander autre chose que ça. C'est fantastique, ça fait voyager, ça fait voir les couleurs, ça fait entendre les couleurs et voir les sons. Voilà, j'adore cette phrase. Et c'est absolument fantastique. Mais vous êtes parti pour un long road trip puisque leurs morceaux sont infinis et t'as l'impression que ça ne s'arrête jamais et c'est absolument génial. Moi, c'est l'une de mes grosses découvertes de l'année, je connaissais pas avant et je me suis plongé dans ce qu'ils ont fait du coup. Allez, on enchaîne avec le numéro 6.
Number 6!
Oh bah alors, Camille, il a mis du punk écossais dans son top 2017. Bah oui, mais que voulez-vous, cette année a vu le retour de l'un de mes groupes préférés qui fait justement ce style divin qu'est le punk écossais. Oula, attendez, j'ai déjà fait exactement la même intro dans ma dernière émission. Vous êtes en train de me dire que l'année 2017 a vu le retour de deux grands noms de la scène trad punk ? Eh ben, c'était vraiment une sacrée magnifique année, dis donc. En numéro 6, c'est les Dropkick Murphys avec l'album 11 Short Stories of Pain and Glory. J'ai longuement expliqué lors de la dernière émission quelle importance avait pour moi le style musical si particulier qu'est le trad punk irlandais ou écossais. Alors pour les deux du fond qui suivent pas, disons simplement que mélanger les aspects traditionnels du punk rock avec de l'accordéon, du banjo ou du violon crée la musique de la franche camaraderie absolue, ce qu'on écoutera tous ensemble entre guerriers au Valhalla. Alors, imaginez mon bonheur absolu, auditoris, lorsque j'ai appris que non pas un, mais deux de mes groupes phares et fétiches de toute ma vie se sont dit que 2017, c'était le bon moment pour ressortir des albums. Ah non, mais pire que ça, non, j'ai littéralement sauté au plafond, me cognant durement la tête, ce qui m'a pas empêché de faire du headbanging tout seul au bureau devant mon ordi, soit dit en passant. Je vous parlais la semaine dernière des Flogging Molly, il est désormais temps d'aborder les Dropkick Murphys. Si ces deux noms sont sans conteste les premiers lorsqu'on évoque la scène trad punk post-année 2000, les Dropkick ont ce côté beaucoup plus punk que les Flogging. Ça gueule, ça hurle, avec les deux frontman qui ont une voix éraillée au whisky, Albar et Ken Casey. Les riffs de guitare sont bourrins à souhait avec des immenses accords saturés et ultra rythmés, une batterie qui tape comme un sauvage, et surtout la présence d'une cornemuse sur la plupart des morceaux qui sonne comme les lamentations d'une veuve éplorée. Alors, je sais que la cornemuse est un instrument controversé, hein, que certains y entendent la tristesse et la fierté de tout un peuple guerrier, alors que pour d'autres, c'est comme si on mettait une tronçonneuse dans l'arrière-train d'un chat. Mais comme vous l'aurez compris, auditoris, je fais clairement partie de la première catégorie, et moi, j'adore ça. Notamment quand elle est maîtrisée et maniée de main de maître par le cornemusier officiel, on va dire pour cette émission que cornemusier c'est un vrai mot, Scruffy Wallace, qui a quand même le nom le plus écossais que j'ai jamais entendu, vous en conviendrez. Les Dropkick ne sont pas purement écossais aussi pour autant, hein, bien que certains aient des origines et de lointains ancêtres, ils sont un groupe américain basé à Boston. Ça les empêche pas de faire un rock trad des plus purs et fait pour autant. Quant à l'album de 2017, 11 Short Stories of Pain and Glory, il est tout ce qu'on pouvait attendre du groupe. La puissance est là, peut-être éventuellement un brin plus traînante qu'avant leur période purement punk du milieu des années 2000, mais pas plus calme, oh là non. On retrouve dans les 11 tracks, dans les 11 tracks quoi en gros, puisque 11 Short Stories of Pain and Glory, 11 morceaux, c'est logique, qui composent l'opus, les aspects que j'adore dans ce genre de musique. Certaines sont empreintes d'une force, celle des révolutions prolétaires, que ce qui se marie tellement bien avec ce style. Certaines sont empreintes de ce second degré tellement présent dans cette culture, comme votre éloigné oncle écossais qui vous raconte des légendes de son pays et qui inclut souvent une histoire de soulerie monumentale la plupart du temps. Et surtout, toutes contiennent ce qui me fait profondément vibrer dans cette musique. Ce son qui rappelle la camaraderie absolue entre êtres humains et la solidarité dans les pubs à coups de shopping qui s'entrechoquent. Bien qu'il n'y ait rien de bien nouveau dans le nouvel album de 2017 des Dropkick, ce n'est pas ce que je recherche moi personnellement. C'est un album où ils font ce qu'ils aiment faire et surtout ce qu'ils savent faire. Un album de punk où se mêlent mandoline et guitare, batterie et bombarde, puissance et fierté. Si un jour la révolte populaire prend les rues, j'y participerai avec cette musique. Je défilerai le point levé scandant les paroles guerrières du trad punk celtique comme un Wallace Bloody McGregor O'Malley qui hurle pour sa liberté. Et les Dropkick Murphys feront clairement partie de ma playlist. L'exemple absolu que je peux vous donner de cet album a un titre qui parle de lui-même. On écoute tout de suite Blood du numéro 6, l'album 11 Short Stories of Pain and Glory. We'll be right back. Fuck yeah, Dropkick Murphy. Fuck yeah. La semaine dernière, je vous parlais des floggings. Cette fois, je vous parle des Dropkicks. C'est deux de mes groupes phares, mais c'est surtout, je pense, les deux noms les plus connus sur la scène post-année 2000 de trad, punk, celtic, irlandais, écossais. Et j'ai pas été déçu ni par l'un ni par l'autre cette année. Ça a toujours cette même puissance, cette même force. Et comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est la musique absolue de la franche amitié, quoi. J'ai envie de chanter ça avec mes potes dans un pub et qu'après on aille faire la révolution, quoi. J'adore ça. J'adore simplement ça. Allez, numéro 5, on arrive à la moitié de ce classement. Il nous reste encore 5 albums absolument géniaux à découvrir. Je vous propose de passer au numéro 5.
Number 5.
Bon allez, on va tous se détendre, là, auditoris, parce que je nous trouve bien énervés depuis quelques albums. Il va être temps de se rappeler que la musique, cela peut simplement être une voix douce et une guitare sèche, évoquant les temps plus calmes et paisibles de l'insouciance bénie. Après tout, n'avons-nous tous pas besoin d'un peu de repos et d'amour dans ce monde violent et brutal qui nous entoure ? Ne rêvons-nous pas tous d'un bonheur simple dans les vertes prairies de l'amour et de l'insouciance ? Ne répondez pas à toutes ces questions, elles sont purement rhétoriques et n'ont d'utilité qu'une pirouette d'écriture pour annoncer le numéro 5, l'album Beast Epic d'Iron and Wine.
Got a crooked tooth. Every traffic light is red when it tells the truth. The church bell isn't kidding when it cries for you. Nobody looks away when the sun goes down.
Ah, Iron and Wine. Quelle voix, quel doigté sur sa guitare, quelle barbe ! Sous ce doux pseudonyme, voulant dire littéralement le fer et le vin, parce qu'après tout pourquoi pas, se cache l'un des plus grands représentants de la folk indé d'aujourd'hui, au look de hipster total, Samuel Beam. Armé d'une simple guitare, celui-ci a réussi à conquérir la scène indépendante d'une main de maître. Alors, de nouveau, je vais être un petit peu vague, mais Iron and Wine produit un effet tout particulier et complètement subjectif sur moi. Ça me touche. Aussi simple que ça. Et simple est un adjectif qui correspond parfaitement à la musique de Samuel. C'est simple et c'est brillant. La simplicité, souvent critiquée dans la musique, et complètement et souvent par moi-même d'ailleurs, n'est pas toujours synonyme de facilité. Il faut savoir bien faire la simplicité. J'irais même jusqu'à argumenter que des fois, la simplicité bien faite est un plus haut fait d'armes que le solo ultra compliqué et balèze d'un bon morceau de métal. Des fois, hein, pas toujours. Iron and Wine est apparu en 2002 un peu comme un cheveu dans le potage, à une époque où tout le monde s'en foutait de la folk et encore moins de la musique à la guitare sèche sensible. La scène indépendante de l'époque était dominée par le punk rock et le new metal, la naissance de ce qu'on appelle aujourd'hui le style indé avec les premiers albums de The Shin ou de Modest Mouse, de l'évolution logique de l'électro et la renaissance du rock se faisait encore attendre. C'est au milieu de cette bagarre de genre qu'est apparu cet homme à la barbe chatoyante et sa voix de conteur adorable qu'on aurait envie qu'il nous chante des histoires avant de dormir. L'album Beast Epic est la parfaite continuité de cet hurluberlu depuis 15 ans. Désormais, il accompagne ses mélodies de xylophone, d'harpe, de violon, voire des fois de voix féminine, toujours avec la prédominance de sa guitare et son chant si doux et mélodieux. Parce qu'au-delà des cordes pincées à la perfection, Samuel Beam a une voix qui s'infiltre dans vos oreilles et vient se loger au plus profond de la poitrine, comme une berceuse délicatement prenante qui s'empare de votre cage thoracique. Iron and Wine, c'est beau. Y a pas vraiment d'autres mots qui pourraient l'accompagner, c'est une douce balade le long d'une paisible rivière. Vous connaissez, auditoris, cette note que parfois certains chanteurs atteignent, cette note qui vous touche au plus profond de vous, qui secoue la corde sensible qui se trouve quelque part en vous près du plexus. Bah, pour moi, Iron and Wine, là. Il l'a trouvé, il en joue, il s'en amuse, compose autour de ça et donne un album d'un calme total qui vous transportera au beau souvenir d'un jour d'une quiétude totale.
un jour où vous étiez avec votre amoureux ou votre amoureuse et où vous êtes soudain rendu compte que vous étiez heureux dans la plus grande des simplicités. Et pour vous faire une démonstration, nous allons écouter un morceau qui a failli me faire pleurer plus d'une fois, About a Bruise de l'album Beast Epic.
Sunday clothes don't fool me. The sky is full of our prayer. Prayer. When you were making moonlight from all cops in Mobile, the night fell from their eyes. From their eyes. This is borrowed stone. I'd help you let your hair down. Point to birds, then you'd say bang. Bang. The sun left every evening. Good grass was dying. You drew your dawn on the world. On the world. Tenderness to you was only talk about a bruise. Walking into water after dark. Your papa saw me coming. Blood knows when it's worth it. All you said like a song. A song. Jesus left a best friend. Mine says forget her. His field is waiting for wind. For the broken. That sound is loud inside us, flowing farther away, far away. Tenderness to you is only talk about a bruise. Walking into water after dark. Love can last a lifetime. This is Alabama. Any wheel is forgiving the road. The road. Now you're making music for beautiful people by the sea who don't need a song. Need a song.
Le morceau About a Bruise de l'album Beast Epic d'Iron and Wine. Je ne sais pas si vous voyez ce que je voulais dire, auditeur, auditrice, quand je disais que ça touche personnellement. Peut-être que vous, ça ne vous touche pas du tout. J'espère pas, parce que j'aurais l'impression que vous êtes mort à l'intérieur. Non, blague à part, ça touche vraiment. En pinçant une corde, il touche la corde sensible chez moi, en fait, simplement. C'est beau, c'est calme, c'est tellement bien chanté, c'est bien accompagné, c'est une merveille. Et c'est un calme, une quiétude, moi, qui me transporte sur les hauts des montagnes, dans un champ, en train de faire des bisous à la fille que j'aime. Enfin, c'est la folie furieuse. Bref, allez, changeons un petit peu et on passe au numéro 4.
Number 4, hein ?
On va redescendre un petit peu sur terre, là, auditoriste, voire même dans la poussière et le sable des déserts. La voix que l'on va entendre maintenant parlera peut-être à certains d'entre vous, car elle est reconnaissable entre mille quand on est fan de ce qu'il a fait avant. Puisque après avoir fait partie d'un groupe, son propriétaire fait des albums solo depuis un temps et a notamment le numéro 4 de ce classement. John Garcia avec l'album The Coyote Who Spoke in Tongues.
Thank you.
Peut-être que le nom du groupe Q's vous dit quelque chose, auditeuris. A savoir, c'est un ancien groupe de dark et stoner rock qui fait partie de cette grande vague de musique sombre et pas bien joyeuse qui est apparue dès le début des années 90, comme les Screaming Trees ou Noir Désir, voire même le grunge de Nirvana, c'est à débattre. Q's s'est distingué et a laissé une empreinte dans la culture populaire parce que déjà, bah, c'est très bon ce qu'il faisait en général, mais aussi par la voix très particulière de son frontman John Garcia, qui en 2017 a sorti un nouvel album solo. Loin de l'esprit nihiliste de Q's, John Garcia sur The Coyote Who Spoke in Tongue, qui, et je le précise avant que n'importe qui fasse la blague hilarante, ne veut pas dire le coyote qui portait des tongs, non, mais bien le coyote qui parlait en langue, bref, c'est le lol total, cet album, disais-je, est un véritable album du désert. Que veux-je bien vouloir dire donc par désert, me demanderez-vous ? Eh bien, au-delà que c'est un style de musique en soi, le desert rock, qui se rapproche du stoner, c'est surtout une sensation. Une sensation de chaleur écrasante, de poussière, de grandes routes longues et infinies, de nuit sous la voûte céleste dans le néant d'un désert. Voilà, exactement. Le desert rock, peut se définir par plein d'aspects techniques de la musique, et il y a sûrement plein d'historiens et spécialistes à lunettes qui l'expliqueraient beaucoup mieux que moi. Mais personnellement, je le définis par un ressenti. Cette impression de traverser un désert, d'être un écrivain de la Beat Generation au volant d'une Cadillac et de rouler en laissant une traînée de poussière rouge derrière soi. John Garcia nous a ici créé un album parfait de Desert Rock. Ces morceaux sont des variations de mélodies de guitare sèche et pinçante auxquelles se rajoutent des ambiances et des sons qui amplifient l'espace. Il y a une sorte de vide intersidéral dans chaque track de cet album. C'est difficile à expliquer, mais comme si les morceaux se déroulaient dans un univers vaste et un petit peu vide, comme la sensation de se retrouver sous un ciel gigantesque dans le désert du Nevada, au milieu des plaines et de la rocaille. Et c'est la voix si particulière et les sons de la guitare de John qui vont emplir l'espace, laissant résonner les notes et les accords. Et c'est ça que me fait ressentir le desert rock, une forme de douce solitude au milieu du grand rien. Ce n'est pas inquiétant, c'est plutôt grand et puissant, c'est une contemplation de l'infini. Je m'imagine en road trip avec John Garcia à faire un feu de camp dans la nuit, sous les constellations, observant les étoiles perdues dans l'immense espace infini qui s'étale dans toutes les directions. The Coyote Who Spoke in Tongue est un album à la fois fort et vide, qui, si vous l'écoutez chez vous, va agrandir votre salon pour le transformer en une grande caisse de résonance dans laquelle vont se répercuter les sons, vous donnant l'impression de flotter légèrement dans le néant. Il y a deux choses qui font sortir cet album du lot pour moi. C'est d'abord la gratte, jouée avec Maestro, faisant résonner les cordes et lui offrant une sacrée puissance quand il a envie, sans que cela ne devienne jamais bourrin, et la voix, qui est juste assez incroyable. Le morceau que j'ai choisi de vous faire écouter ici est le premier sur lequel je suis tombé parce qu'il ouvre littéralement l'album. Et ce morceau, j'en suis tombé fou amoureux. La rythmique est saccadée et prenante, la voix est déchirée et le tout donne une impression d'urgence qui transforme la trax en un truc un tout petit peu angoissant. Et vous allez l'entendre, il y a un passage auquel je ne m'attendais pas du tout et qui m'a pris complètement par surprise. Assez bavassé, je vous propose d'écouter le morceau Kylie de The Coyote Who Spoke in Tongue.
Well, hey man.
Auditeur auditrice, le morceau Kylie, donc, qui ouvre l'album The Coyote Who Spoke in Tongue de George Garcia. John Garcia, pas George, pas du tout, il s'appelle pas George, il s'appelle John. Alors c'est vraiment, moi ce morceau, j'en suis tombé fou amoureux, cette espèce de pause un petit peu douce au milieu qu'il y a, après le rythme est vraiment effréné à la guitare. Je vous conseille d'aller voir le clip si vous l'avez pas vu, qui est assez spécial, d'un type qui kidnappe une fille pour l'amener dans un culte un peu bizarre au milieu du désert justement. Qui est vraiment intéressant, et tout l'album en fait est une suite de sons géniales de guitare et vraiment cette impression de vide et cette voix fantastique. Bref, il n'est pas en numéro 4 pour rien. Mais comme on a dit, il y a le numéro 4 et puis après il y a le numéro 3, il y a les places du podium de l'année 2017 qui arrivent. Je vous propose qu'on y passe tout de suite.
Number 3.
Donc nous arrivons, comme je le disais, dans le top 3 de l'année, auditeurs et auditrices. Alors ça y est, voici le podium, les médailles d'argent, d'or et de bronze et toutes les autres métaphores que vous voulez. Juste pour vous donner une idée, bien que cette émission demande bien 12 mois de boulot et que tous les albums dont nous avons parlé précédemment se battent un petit peu pour les places, voilà, ils montent, ils descendent, ça fait maintenant plusieurs années que je remarque, parce que ça fait plusieurs années que je fais cette émission, que je remarque un pattern dans mes Selecta. Les trois premiers sont souvent décidés vraiment à l'avance et n'en bougent plus une fois installés. Peut-être parce que ce sont ceux-là qui me touchent le plus, peut-être parce que dès que je les écoute, j'en démords plus, ou peut-être que je suis simplement une sorte d'immense gros dictateur musical. Toutes ces réponses sont justifiées, mais passons plutôt à ce qui nous intéresse, la troisième place, avec un groupe que je regrette de ne pas avoir connu plus tôt, All Them Witches et l'album Sleeping Through the Wall. All Them Witches, se traduisant littéralement par toutes leurs sorcières, est ma meilleure découverte de l'année. Parce que dans ce classement, vous l'aurez bien compris, il y a les groupes ou les artistes que je connaissais déjà et dont j'attends les prochains projets avec impatience, et il y a les découvertes, ceux qui ne me disaient rien avant et dans lesquels j'entre sans aucun a priori aucun. All Them Witches fait partie des seconds et n'ont pas quitté mon esprit ni mes petites pépites musicales depuis la seconde où je les ai découverts. All Them Witches est un pur groupe de stoner. Alors, le stoner, parce que je me rends bien compte que j'ai évoqué ce style plusieurs fois sans jamais vraiment expliquer de quoi qu'on causait, ça se définit par des mélodies plus hypnotisantes que du rock classique, des instruments un petit peu plus lourds, comme une guitare appuyée et saturée, des voix profondes et usées, enfin bref, vous voyez un petit peu mieux le tableau. All Them Witches font du stoner depuis 2013 et le font très bien. 2017 aura été l'année où ils ont enfin un petit peu explosé, atteignant soudain une forme de reconnaissance un petit peu plus générale. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'est comme ça. Ce qui caractérise le plus leur musique pour moi, c'est qu'ils sont étranges. Quand on écoute un morceau de Sleeping Through the War, il y a quelque chose qui dérange. Un truc bizarre, un truc un peu inquiétant. On n'est pas tranquille, quoi. Comme si on écoutait la reconstitution d'un rêve hallucinogène d'un patient fiévreux. Il y a comme une angoisse sous-jacente. C'est très psychédélique, mais c'est pas le voyage dans les étoiles chaudes de Mundio. C'est plus sombre, c'est vraiment plus angoissant. C'est ça comme sensation musicale, c'est génial. Parce que quand on commence un de leurs morceaux, on se met à s'interroger sur la structure générale du truc. En fait, un petit peu comme un patient dérangé d'un hôpital psychiatrique un peu glauque, on se demande à quel moment il va soudain péter un boulon. Et comme en plus la plupart des morceaux durent entre 5 et 10 minutes, les All Them Witches prennent le temps de faire traîner cette sensation. On sait jamais très précisément où et quand on les écoute, et on sait encore moins où est-ce qu'ils souhaitent nous entraîner. C'est à la fois fascinant et déroutant. Et cette ambiance est présente à travers tout l'album Sleeping Through the War. C'est un chef-d'œuvre absolu pour l'inventivité des compositions et pour la réussite qu'est le fait de capturer parfaitement ce sentiment étrange de mal-être planant et de le faire traîner durant des plombes et des plombes, vous plongeant toujours un tout petit peu plus dans l'abîme. Ça s'entend que je suis devenu fan ou pas ? Non, je me rends pas compte, je demande. Toute la discographie de All Them Witches vaut le détour, mais Sleeping Through the War est une superbe entrée dans leur univers. Même le nom de l'album est un peu dérangeant, hein, qui se traduit par « Dormir durant la guerre ». Peut-être que c'est juste moi, mais moi ça me fait me creuser un petit peu la tête. D'ailleurs, le morceau que je vais vous faire écouter est de nouveau le premier que j'ai entendu d'eux, et mon préféré de tout ce qu'ils ont produit par ailleurs. Et vous allez entendre, il représente parfaitement pour moi cette étrange ambiance que j'essaye péniblement de décrire depuis le début. Le rythme très présent et presque hypnotisant, tenu pendant tout le morceau par une batterie saccadée et lourde, et par cette suite d'accords de guitare qui entraîne dans une sorte de spirale mentale. La voix du frontman, Charles Michael Spark Jr., vient se rajouter par-dessus avec des paroles énigmatiques et une voix qui semble un petit peu distordue, comme un lointain refrain qu'on entendrait au plus profond de ses rêveries bizarres. Puis des chœurs féminins, comme de longues complaintes, se mettent à appuyer le refrain, et le tout ne décolle jamais. C'est-à-dire que ce rythme un petit peu flippant garde sa continuité quasi nihiliste. La touche finale et qui rend ce morceau fantastique sont ces quelques accords très lourds qui arrivent à des moments clés du morceau et qui se font de plus en plus présents à la fin, enfin vers la fin du morceau, comme quelque chose de gros et de sombre et de lourd et d'un peu dangereux qui se rapprocherait de vous, auditoris. Bon, bref, comme il est très compliqué de parler d'un morceau sans avoir l'air d'un gros taré, je vous propose de vous faire une idée avec ce fameux morceau-là, justement, Am I Going Up de Sleeping Through the War. I don't know. Voilà, auditeurice, je ne sais pas si vous voyez un petit peu mieux ce que je voulais dire par ambiance étrange et presque un petit peu flippante et angoissante, et par ces gros accords, moi, qui me font juste penser à une sorte de grosse masse ténébreuse qui s'avancerait tout doucement au ralenti. Enfin, si ça vous a plu, sachez que tous les morceaux de All Them Winchells sont un peu comme ça, sont un peu bizarres. Il y en a qui sont beaucoup plus bourrins, celui-là, ça fait partie des doux, mais il y a toujours cette espèce de truc angoissant au fond, et moi, ça m'a complètement captivé. Bon, médaille d'argent, deuxième place. Allez, on est parti.
Number two!
Il va être temps de parler de ceux que je considère comme, sans aucun doute, le meilleur groupe actuel. Oui, vous m'avez bien entendu, les meilleurs de ces dernières années. Un groupe qui restera dans l'histoire avec un grand H de la musique. Et je dis pas ça à la légère, hein, auditoriste. Vous avez sûrement remarqué à présent que dès qu'il est question de musique, je suis assez intransigeant et élitiste. Donc, quand je vous dis que c'est le top du top, c'est que vraiment, on parle pas de Joël Clodo avec sa guitare qui fait joujou dans la rue. Laissez-moi vous présenter les grands, les incroyables King Gizzard and the Lizard Wizard avec l'album Flying Microtonal Banana. King Gizzard and the Lizard Wizard ont déjà une chose que n'importe qui peut leur reconnaître, possiblement le meilleur nom de groupe de tous les temps. Voilà, donc déjà, ça, c'est acquis. Mais ce quoi, qui, qu'est, comment et qui est assez génial, c'est que ça s'arrête pas là. Les King Gizzard sont le groupe le plus inventif, original et bosseur de ces dernières années. Et ceci pourrait juste être un jugement totalement subjectif de ma part, car les goûts et les couleurs, s'il n'y avait pas un tout petit dernier léger mini détail. Ils existent depuis 2010, donc sont à 7 ans de carrière. Ils ont déjà une discographie de 13 albums. Donc pendant que vous êtes en train de faire le calcul en vous disant que quand même ça fait presque 2 albums par an, laissez-moi préciser une dernière chose. En 2017, ils ont sorti 5 albums. Je répète, 5 albums. Tout en faisant leur tournée dans le monde entier et en organisant leur propre festival, le Geezfest. C'est des malades. Et ça pourrait juste être impressionnant avec un résultat moyen, parce que autant d'albums c'est bien, mais s'ils sont pas terribles, ben on s'en fout. Là est la grande subtilité. Tout ce qu'ils font, et je dis bien tout, est génial. D'ailleurs, si j'avais pas ma règle absolue pour ce classement, règle qui consiste en un artiste égale un album et pas plus, je peux vous dire qu'au moins 4 des 5 albums de cette année feraient partie de cette liste. Ouais, on en est à ce point-là. Il a donc fallu que je n'en choisisse qu'un, et mon choix s'est porté sur le premier sorti en février, appelé Flying Microtonal Banana. Alors maintenant qu'on a bien posé le décor, King Gizzard, c'est qui, c'est quoi ? Eh bien, avant toute chose, c'est 7 Australiens qui font du psyché. Pas que, mais c'est encore assez simple de les qualifier comme ça si on ne veut pas partir dans la myriade de sous-types de musique qu'ils expérimentent. Je les tiens pour personnellement responsables, presque à eux tout seuls, de la renaissance du style rock psychédélique qu'on est en train de vivre en ce moment dans le monde de la musique. Bon, peut-être pas responsable, mais en tête de file, ça c'est sûr. Les King Gizzard ont réussi à s'imposer sans presque aucune promo de leur part, comme un groupe incontournable de tous ceux qui s'intéressent un petit peu à la scène indépendante de nos jours. Ils sont adulés des radios alternatives et leurs concerts sont systématiquement pleins. D'ailleurs, lorsque j'ai eu la chance de les voir cet été, j'ai dû batailler pour me rapprocher un tant soit peu de la scène. Et j'ai eu mon interview et mon vinyle dédicacé parce que je suis une grosse groupie qui tremblait des genoux en les rencontrant, mais ça c'est une autre histoire. Mais pourquoi un tel engouement, me direz-vous, auditoriste fort circonspect que vous êtes ? Parce que les King Gizzard sont tout simplement incroyables. En plus d'être assez révolutionnaires dans leur manière de traiter la musique en réactualisant le psychédélisme à travers leurs compos, qui ont autant d'inspiration de grandes époques du prod que de nouveautés dans la manière qu'ils ont de jouer de leur instrument, avec un duo de batterie très prenante, des guitaristes d'un talent fou et des mélodies ultra originales et complexes, ce sont en plus des musiciens possédant un talent fou. Chaque album de King Gizzard est un pur mélange d'inventivité et de plaisir. En résumé, ils sont doués et ils déglinguent tout dans ce qu'ils font. Comme ça au moins, c'est clair. Quand l'album, l'album Flame Microtonal Banana, quant à lui, pourquoi l'avoir choisi? Pourquoi avoir choisi celui-là? Parce que s'il y a le mot microtonal dedans, c'est pas par hasard. Le microtonal, auditeuriste, c'est un genre de musique bien spécifique. Vous savez sûrement tous ce que c'est qu'un intervalle en musique, c'est-à-dire ce qui sépare, ou plutôt ce qui désigne l'écart entre deux notes en musique. Quand vous avez passé du Do au Ré sur votre gamme, le rapport de séquence entre deux sons, quoi. C'est ce qu'on appelle un intervalle. Eh bien, le microtonal, c'est l'intervalle qu'il y a entre ces intervalles. C'est une note que l'on ne trouvera pas sur un piano, par exemple. Donc c'est déjà pas mal calé comme manière de faire de la zikmu. Alors imaginez tout un album composé avec des instruments qui utilisent le microtonal. Bim bam boum, vous avez logiquement l'album Flame Microtonal Banana. Et au-delà de tous ces aspects techniques sûrement très chiants pour des non-initiés, je vais faire court parce que je pourrais vous en parler pendant des heures des King Gizzard tellement je trouve cela génial ce qu'ils font. C'est presque épuisant d'ailleurs de suivre leur carrière musicale tellement ils sont productifs. Donc j'ai juste envie de vous dire, écoutez ce qu'ils font. Juste écoutez. Choisissez un album pour commencer et lancez-vous dedans. Si c'est celui dont nous parlons aujourd'hui qui suscite votre intérêt, sachez que vous êtes parti pour une suite de morceaux tout aussi prenants les uns que les autres, emplis d'accords de guitare psyché rappelant des tripes d'acide, d'influences orientales dans les mélodies et leurs sonorités, de voix douces et chuchotées qui illuminent chaque trax, de rythmiques tenues et de rolling de batterie incroyables, et que vous entrez dans un monde de visions hallucinogènes et de sensations qui mélangent génie et folie. C'est un album et un groupe excellent qui laissera son nom dans les annales de notre époque. J'en suis convaincu et je vais arrêter là parce qu'à un moment, ça va se voir que je suis juste un gros fanboy. Il m'a été très dur de choisir un seul morceau pour représenter leur compo et je les adore tellement toutes que voilà. Hein. Mais au final, je vous propose de découvrir leur univers avec Sleep Drifter de l'album Flying Microtonal Banana.
Sleep drifter.
le morceau Sleep Drifter de Flying Microtonal Banana de King Gizzard and the Lizard Wizard, et c'est très long à dire comme ça. Mais vraiment, auditeurs, auditrices, s'il y a un seul truc que je dois vous recommander, que vous devez découvrir, c'est ça. C'est les King Gizzard. Allez-y, n'importe lequel de leur album. Je pourrais vous conseiller I'm In Your Mind Fuzz ou Paper Mache Dream Balloon ou Nonagon Infinity, mais peu importe, enfin n'importe lequel que vous allez découvrir, si ça vous a plu, ça va vous plaire, et je pense vraiment que c'est un des groupes les plus importants de notre époque. Sérieusement, je blague pas. Bon, bah je crois qu'on y est, hein. Numéro 1.
Number 1.
Et voilà, on y est, auditoris. Le numéro 1. Le number 1, comme diraient nos cousins ricains. Ce que, moi, j'ai préféré cette année. L'album qui m'a le plus touché, le plus plu, au-delà de toute considération autre que Camille, il aime bien. Donc, si vous le voulez bien, parlons de The Shins avec l'album Heartworm. The Shins, les rois absolus de l'indé, les pionniers du genre, ceux sur qui tous les autres se sont calés par la suite, les papas, les vénérables anciens et les grands sages. The Shins, les seuls et uniques, le groupe qui a forgé tout un style, qui a ouvert une page blanche sur qui tout le monde a pu dessiner après. The Shins, je les aime et ils sont de retour en 2017 avec l'album Heartworm. Dans les années 2000, auditoris, quand la scène et le genre musical qu'on appelle aujourd'hui l'indé a commencé à se développer, il y avait un nom de groupe sur toutes les lèvres et c'était eux, c'était The Shins. Principalement avec les compositions de leur frontman James Mercer, ils ont su créer un nouveau son qu'on n'en avait jamais entendu, maintenant et qui est aujourd'hui devenu une norme, voire même un cliché dans le milieu. Et c'est pas triste comme truc, hein. Au contraire, ça veut dire que c'est tellement devenu commun de les citer qu'ils sont considérés comme piliers du genre, et c'est tout un pan de la musique qui s'est basé sur leurs compos pour se développer, comme ça a pu être le cas avec les Beatles, enfin ce qu'ils ont fait pour le rock, les Clash pour le punk, voire même ce qu'a fait Linkin Park pour le néo-metal, c'est vous dire. En fait, c'est juste une manière de dire qu'ils sont rentrés dans le panthéon de la musique, tout simplement. James Mercer est non seulement le créateur d'un des plus grands albums de ma vie sous le nom de Broken Bells, mais The Shins ont surtout, en plus de forger le monde de la musique comme dit plus haut, forgé, moi, ma propre expérience et mon propre rapport à tout ça. C'est en partie grâce à eux que je fais ce que je fais aujourd'hui. Et donc j'étais un peu plus heureux de savoir que 2017 verrait un nouvel album pointé sous leur plume. Mais anxieux aussi, parce qu'il n'y a pas pire que l'un de vos groupes phares qui ressorte un opus si c'est pour vous décevoir, comme par exemple Gorillaz avec leur dégueulasse album de cette année. Que ne fus-je pas rassuré lorsqu'arriva Heartworms, cinquième album studio du groupe et le premier depuis 2012. Alors je sais que j'ai l'air de me répéter au fur et à mesure des artistes dans ce classement, auditoris, hein, mais c'est bien une preuve que 2017 fut absolument incroyable musicalement parlant. Mais alors Heartworm, pourquoi est-il incroyable à ce point, me direz-vous? Comment se fait-il qu'il ait le meilleur album de 2017 selon cette grande asperge qu'est Camille Jonin? Eh bien tout simplement parce que c'est un raffinement, une sorte de diamant taillé à la perfection de ce style musical si proche de mon cœur, l'indé. C'est un mélange subtil de douceur et de plaisir que chaque morceau de Heartworm. C'est une sorte d'accomplissement, d'aboutissement final de 20 ans de carrière. C'est la beauté, c'est la joie, c'est la simplicité de toute chose. Si j'ai essayé péniblement et avec le discours qui est le mien d'expliquer tout au long de ces deux émissions pourquoi tel ou tel album était bien, pourquoi tel ou tel artiste méritait qu'on l'écoute, pourquoi c'était des chefs-d'œuvre ou au moins des réussites, laissez-moi donc rester dans la simplicité avec The Shins. Cet album me rend juste heureux, me comble d'une quiétude si évidente, me fait me dire que oui, la musique, ça peut simplement être ça, ça peut simplement nous toucher au plus profond de nous-mêmes. Peu importe si c'est facile, peu importe si c'est ultra complexe, peu importe si c'est inventif ou pas, la musique a ce rôle et a cette force précise de nous faire ressentir des choses incroyables. Je sais, auditoris, je le sais, que c'est extrêmement paradoxal avec ma tendance à cracher sur tout ce que je considère comme mauvais ou mainstream. Mais The Shins m'a rappelé cette année que, au final, peu importe que moi, je trouve quelque chose comme nul à chier, si une autre personne, un autre être humain, y trouve un sentiment qui le comble, qui le remplit, lui, d'une sensation qui le rend heureux. Ou triste, ou mélancolique, ou excité, ou peu importe. Et c'est un petit peu ça que j'ai envie de faire passer comme message après cette année 2017 qui, moi, m'a comblé au plus haut point. Parce qu'il y a, sans aucun doute, des dizaines d'albums que j'ai écoutés et qui m'ont pas plu. Et encore plus qui me sont passés sous le nez sans que je m'en rende compte. Mais qu'au final, on aime bien ce qu'on aime. Et si vous, vous avez eu ça comme réaction, vous avez eu un artiste qui vous a fait vibrer, que ce soit en 2017 ou avant ou plus tard, et ben tout le reste, on s'en fout. La musique a réussi ce qu'elle doit entreprendre. Vous plaire, me plaire, nous plaire, point à la ligne. Je me dis bien que c'est un petit peu bisounours comme conclusion, sointant l'amour et l'amitié par tous les ports, et qu'au final, j'ai très peu parlé de l'album Artwork ou même de The Shins, mais je vous laisserai aller y jeter une oreille indiscrète si cela vous plaît et vous intrigue. Et au final, vous avez vous aussi sûrement votre numéro 1 de l'année, et je serais curieux de savoir ce que c'est d'ailleurs. Ce classement n'a pas pour but de définir une hiérarchie artistique, parce que ça c'est un tout petit peu de la merde, mais plutôt de vous faire découvrir ce que moi je considère comme bon. La musique a toujours été un partage, et aussi de forger vos opinions, de vous demander pourquoi vous n'aimez pas tel ou tel artiste dont j'ai parlé ici. C'est juste matière à débat et à découvrir. Et j'espère que cela vous aura permis de réfléchir un petit peu, ou au moins de voyager. Moi, je vais clôturer cette magnifique conclusion du pouvoir de l'amitié et de la tolérance en vous souhaitant une belle année 2018 musicale. Et je vous souhaite que vous découvriez ou fassiez découvrir plein d'artistes divers et variés. Et on va se quitter avec un morceau de mon album préféré de 2017, Dead or Alive, de The Shin et l'album Artworm. Sur ce, bonne soirée auditoris et à la prochaine.